France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midi de Culture, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout à l'heure, à 13h, comme promis, la chef d'orchestre Emmanuelle Haïm sera mon invitée. Elle dirige Semelede Handel au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mais tout de suite, place au Point Culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Durant l'année 2024, vous le savez certainement, nous avons célébré le centenaire du surréalisme. Mais en ce début février, nous fêtons aussi l'anniversaire de Dada, ce mouvement artistique dont est né justement le surréalisme. Moins connu et pourtant fondamental, le dadaïsme semble avoir été un peu oublié. Mais Dada peut-il tout de même avoir une résonance contemporaine? C'est notre dossier du Point Culture. Philippe Dagen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art contemporain, professeur à l'Université Paris 1. Alors nous sommes donc dans une année dévolue au surréalisme dont c'est le centenaire, mais ce mouvement est né sur les cendres d'un autre courant artistique, le dadaïsme. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire au fond qu'il est né sur ces cendres ou est-ce qu'il s'agirait plutôt de parler de continuité ?
Cendres, non, ce serait déjà beaucoup trop tragique. Mais il est né de la dynamique lancée par le mouvement Dada, si ce n'est que le mouvement Dada était, pour ainsi dire, par définition internationale. C'est Zurich, c'est Paris, c'est Cologne, c'est Barcelone, c'est New York. Et un certain nombre des principaux agitateurs, si l'on peut dire, de Dada, se retrouvent à Paris après la fin de la Première Guerre mondiale, qui les avait évidemment tenus séparés un peu partout dans le monde. Et c'est à partir de là, donc si vous voulez, de 1919, que progressivement, un certain nombre d'entre eux vont, qu'on pourrait dire, s'agréger. Et c'est de cet agrégat que naîtra le surréalisme, non sans avoir auparavant procédé à un certain nombre d'exclusions, etc., et de contestations qui sont le propre de ces mouvements d'avant-garde.
Donc effectivement, il y a plusieurs artistes qui étaient dans le mouvement Dada qui se retrouvent dans le surréalisme. Et le surréalisme, on le sait maintenant depuis un an, joue beaucoup avec la notion d'inconscient. Alors le dadaïsme, en parallèle, évoque un mouvement qui serait peut-être un peu plus inscrit dans le réel, en tout cas dans le monde contemporain. Est-ce que pour vous, il s'agirait là de la différence fondamentale ou bien, enfin, comment vous définiriez Dada ?
Dada, c'est pas véritablement un mouvement d'artistes, c'est d'abord un mouvement de poètes et d'écrivains, dans lequel il y a un certain nombre d'artistes visuels, mais qui peuvent aussi être des poètes, comme Hans Arp, par exemple, qui s'expriment dans les deux registres. Non, je dirais que ce qu'ils ont en commun, ce qui les anime, c'est leur fureur contre le monde. C'est-à-dire contre le monde occidental, contre la guerre évidemment qui en est la manifestation paroxystique, contre l'ordre des États, contre l'ordre du capitalisme. Avant même de se demander si Dada ou le surréalisme ont, si j'ose dire, des nourritures théoriques communes, ils ont d'abord une fureur commune. Et je pense que l'état du monde à cette date-là la justifiait pleinement.
Et comment ils expriment justement cette fureur, cette posture politique par leur art, Dada ? C'est surtout des objets, c'est comment ça ?
Non, tous des faits. Une soirée poétique, si l'on peut dire, ne serait évidemment pas faite de récitation, mais plutôt de d'improvisation, de ce qu'on aurait presque tendance à appeler aujourd'hui des performances. On ne dessinera pas, mais on déchirera des papiers et qu'on collera ensuite dans un ordre plus ou moins issu du hasard. On bricolera avec des bouts de fil métallique, des petits bouts de bois de récupération. C'est-à-dire qu'on va aller systématiquement contre tout ce que la société bourgeoise, si vous voulez, entend par beaux-arts. On ne fera pas de peinture au sens conventionnel du terme, on ne fera pas de sculpture non plus, on fera des assemblages, on fera des collages, on procédera beaucoup plus par de la destruction que par une élaboration plastique. Et c'est la même chose en poésie, où on va faire de la poésie en jouant du hasard. Breton, lui-même, avant d'écrire le manifeste du surréalisme, fabrique des poèmes en découpant des mots ou des bribes de titres dans les quotidiens. Et les colle d'une manière qui, évidemment, produit un texte absolument incohérent. Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de mettre à bas tout ce qui est.
Et chez Dada, donc là, donc, dans tout ce que vous nous expliquez, donc il y a vraiment cette question de l'absurde, volonté aussi de faire table rase avec le passé, un refus de la guerre, un anticapitalisme. C'est un mouvement qui finalement semble assez bien pouvoir résonner avec notre époque et certains de ses enjeux politiques. Alors, est-ce que Dada existe encore aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'il pourrait en fait exister?
Dada existe comme inspiration. Je pense que la plupart des artistes contemporains, enfin en tout cas, je suis ravi de vous dire ceux qui m'intéressent en tout cas, ont une connivence ou une familiarité, on pourrait presque dire plutôt une amitié avec le dadaïsme, peut-être davantage d'ailleurs avec le dadaïsme qu'avec le surréalisme. Les aspirations à la pauvreté, par exemple, au sens où les artistes italiens des années 60 appelaient ça l'art pauvre, l'arte povera, ça a quelque chose d'une résonance dada. À l'inverse, les manifestations un peu luxueuses, si j'ose dire, d'œuvres d'art monumentales que le marché actuel affectionne particulièrement, mettons Jeff Koons pour citer un nom, sont rigoureusement incompatibles avec l'esprit dada. Mmh.
Et donc, pour revenir à cette différence donc, entre les deux mouvements et la question donc, du surréalisme qui semble avoir eu plus d'impact que le dadaïsme dans l'inconscient collectif, dans la mémoire qu'on a de cette période artistique, comment vous le comprenez? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier quand même qui a permis à Dada de revenir sur le devant de la scène?
Il y a deux questions en une. D'abord, le surréalisme a fait très tôt ce que Dada n'a jamais voulu faire, c'est-à-dire qu'il a été son propre historien. Et c'est particulièrement flagrant dans l'attitude de quelqu'un comme André Breton, par exemple. André Breton construit un mouvement, publie des revues, organise des expositions, fait accéder le surréalisme à un niveau international d'une manière qui est très délibérée, qui est très réfléchie. En fait, il et ceux qui sont autour de lui organisent véritablement le surréalisme comme un mouvement qu'on peut dire structuré. Ce qui n'a jamais été le cas de Dada, ni le désir des dadaïstes. Ensuite, un autre point est que un certain nombre des artistes, ou des intellectuels, ou des écrivains qui ont fait Dada, ont ensuite approché ou se sont intégrés au mouvement surréaliste, en particulier quelqu'un comme Tristan Tzara, et donc se sont probablement plus réclamés du surréalisme dans l'entre-deux-guerres que d'un mouvement Dada dont le souvenir était en train de s'effacer et qui ne s'est véritablement reconstitué que tardivement. À partir finalement des années 50, on commence à se rendre compte qu'il y a eu Dada, mais les premiers travaux des historiens sur le dadaïsme sont relativement plus récents, paradoxalement, que les premiers travaux sur le surréalisme, alors que Dada est évidemment chronologiquement antérieur au surréalisme.
Merci beaucoup Philippe Dagen.
Je vous en prie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, la situation à la Gaîté Lyrique s'empire.
Oui, cela fait à présent 58 jours que la Gaîté Lyrique est occupée par plus de 400 mineurs isolés. Nous vous en parlions déjà dans un dossier du Point Culture le 14 janvier dernier. Si la salle de spectacle parisienne réitère son soutien à ces jeunes en refusant de les mettre dehors, les salariés viennent de rédiger un communiqué dans lequel ils rappellent à quel point ils sont débordés par cette situation. Les conditions sanitaires se détériorent de jour en jour, tandis que les finances sont durement touchées. Les salariés exhortent les autorités par cette lettre à trouver une solution d'urgence pour héberger ces mineurs.
En Irak, l'UNESCO clôture aujourd'hui son programme de restauration de plusieurs bâtiments historiques de la ville de Mossoul.
Cette initiative est la plus ambitieuse jamais menée par l'UNESCO puisqu'elle a disposé d'un budget de plus de 110 millions d'euros. Lancée en 2018 après la fin de l'occupation par Daesh qui a conduit à la destruction de 80% de la vieille ville, ce programme a permis de reconstruire notamment quatre bâtiments emblématiques de Mossoul, la mosquée Al-Nouri, l'église syriaque catholique Al-Tahira, le minaret Al-Hadda et le couvent dominicain de Notre-Dame de l'Eure. À cela, il faut ajouter la restauration de plus de 120 maisons historiques qui sont à nouveau habitées. Ces chantiers ont généré en tout plus de 7000 emplois et ont permis de sauver le patrimoine de cette ville irakienne vieille de plus de 2500 ans.
Et pour finir, Sophie Catherine Gallet, patrimoine toujours d'ailleurs, la Bonne Mère à Marseille va être rénovée.
Oui, la statue qui surplombe la basilique Notre-Dame de la Garde, ce monument emblématique qui domine Marseille, va retrouver son éclat. Abîmée notamment par l'air marin et la pollution, la restauration de cette statue représentant une Vierge à l'enfant nécessite l'application de pas moins de 30 000 feuilles d'or. Plusieurs autres parties de la basilique seront concernées par le chantier et l'inauguration est prévue le 8 décembre 2025, soit exactement un an après la réouverture de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris.
Merci Sophie-Catherine et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.